Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Rasset, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'Accès libre. À nos habitudes, on reçoit ici des décideurs, des militants, des chroniqueurs qui rapportent des infos utiles pour vous. Et en table ronde, d'abord, on se prépare aux élections municipales qui se tiendront le 5 novembre prochain. À table pour revendiquer à Montréal trois représentantes et représentants d'organismes de défense de droits des personnes en situation d'handicap. D'abord, Marie Turcotte d'Ex-Éco, Anne Pelletier de Défi Montréal et Laurent Morissette du Raplic. On prend des nouvelles de Québec avec Michel Lambert, on comprend les services au postsecondaire avec la CEPS et dans un instant, on évoque la consultation sur le vieillissement au Québec et le plan gouvernemental pour contrer la maltraitance chez les aînés. La porte-parole des retraités, enfin de la QDR, Mme Judith Gagnon, réagit. Et d'abord, Mme la ministre responsable des aînés, Francine Charlebois, qui défend le plan d'action de son ministère. Sur Canal M, la radio de Vuzévoix. Bâtissons ensemble un Québec pour tous les âges. C'est l'expression qui appelle vos commentaires, vos idées, vos critiques dans le cadre d'une consultation en ligne qui se tient jusqu'au 29 septembre 2017. Pourquoi faire cette consultation? Eh bien, c'est pour aider à élaborer un second plan d'action issu de la politique vieillir et vivre ensemble chez soi dans sa communauté au Québec et qui va couvrir la période 2018-2023. Donc, pour en parler davantage de cette future politique du vieillissement et aussi pour revenir sur le plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées déposé en juin dernier, on reçoit la ministre responsable des aînés de la lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau. Bonjour, Mme la ministre.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous.
C'est un plaisir.
Alors, vous le savez peut-être, les gens qui nous écoutent, vous le savez peut-être, l'ancienne ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, avait, à la suite d'une consultation, déployé le plan d'action contre la maltraitance. Il se terminait en 2015. Alors vous, vous récidivez à titre de nouvelle ministre avec un nouveau plan d'action.
Tout à fait. Nous avons entendu les partenaires qui nous ont dit non seulement c'était un premier plan d'action important, mais il serait tout aussi important de poursuivre dans la lignée puisqu'on doit adapter tout le principe de la lutte contre la maltraitance. Parce que au départ, il y a de ça plusieurs années, on parlait de la maltraitance sous quelques formes. Maintenant, on est capable d'en parler concrètement sous des formes très spécifiques et on peut aller jusqu'à dire qu'il y a une maltraitance financière. Donc, on est capable d'aller un petit peu plus loin.
Vous vous insistez particulièrement sur ce type de maltraitance, mais pour votre ministère, de quoi il s'agit exactement quand on parle de maltraitance des aînés?
Du moins, on est capable de noter avec un partenaire qui est la chaire de recherche à Sherbrooke, Mme Marie Beaulieu, sept formes de maltraitance, donc des maltraitances très spécifiques. Alors, on peut parler de celle qui est physique, psychologique, mais on peut aller jusqu'à parler de celle qui est sexuelle et celle qui est financière. Donc, je ne vous fais pas les sept parce que je suis sûre que vos auditeurs en connaissent plusieurs.
Oui, malheureusement.
Effectivement, mais en même temps, quand on dit malheureusement, maintenant je dis aux gens heureusement. Heureusement qu'on est capable de les identifier puis qu'on est capable de les nommer. Puisque à partir de ce moment-là, comme gouvernement, mais comme citoyenne, comme parent, comme fille d'une personne plus âgée, bien, je peux poser des gestes pour contrer et lutter contre cet aspect-là.
Donc, au fond, ça nous redonne peut-être des moyens de lutter en nommant, en commençant par le nommer.
Ça nous donne le pouvoir de poser des gestes concrets pour contrer toute forme de maltraitance envers les aînés. On a adopté une loi qui va beaucoup plus loin que le plan, mais on a surtout ce qu'on appelle, nous, le PAM, le plan d'action, qui vient aider et soutenir différents aspects pour pouvoir parler, contrer, puis nous assurer que nos aînés sont dans des milieux sains et sécuritaires.
On entend votre vision. Qu'est-ce qui est différent d'avec l'ancien plan d'action?
Dans l'ancien plan d'action, on parlait de l'environnement, on parlait de partenariat. Dans celui-ci, on reste dans le principe qui veut qu'on travaille avec les milieux de vie. On veut faire en sorte que les outils qu'on a mis en place deviennent facilitateur. Hein, on parle de la ligne aide à but aîné. Mm-hmm. En 2010, c'était le début de cette ligne. Maintenant, c'est dans la continuité qu'on est pour la ligne. Donc, okay. les services qu'on est capable d'aller chercher. Mais on a aussi instauré des coordonnateurs partout en région. On a je vous le disais un peu plus tôt, là, on a notre chaire de recherche qui nous aide à mieux faire les choses. Et on a aussi ce que moi j'appelle des ITMAV. Donc, je les appelle un peu affectueusement, oui, mes extraterrestres. Mais c'est des travailleurs de milieu.
Okay. On n'a pas intervenants en milieu de vie. Là.
Exactement, voilà. Nos intervenants en milieu de vie qui fait en sorte que quand je suis arrivée en 2014, puis on a regardé comment ça se passait sur le terrain, il y en avait 44. Mm-hmm. Maintenant, je vous annonce officiellement qu'il y en a 122. Parce qu'on s'est dit, ça n'en prend partout.
Bien
Ce
sûr.
Sont des gens qui sont en lien avec les organismes communautaires et qui détectent une forme de maltraitance qu'on n'a pas encore été capable d'identifier, mais la solitude.
Oui, l'isolement, exactement, parce qu'on a appris même récemment avec les derniers recensements qu'au Québec, il y avait une majorité de personnes seules, et c'est très souvent des personnes aînées.
Et vous avez raison, c'est souvent aussi des femmes. Mm-hmm. Donc, moi, j'appelle ça le fléau caché, là, parce ouais. qu'on le voit pas nécessairement. Donc, ce qu'on a fait en mettant ces travailleurs au service de la communauté avec les organismes communautaires, c'est qu'on essaie de retrouver ces gens-là qui, de par nature, de façon naturelle, s'isolent. Mmh. Après ça, ben la déprime un peu s'installe, le manque d'alimentation, les ressources manquent alentour d'eux. Mmh. Et malheureusement, ils tombent un peu dans ce qu'on appelle l'oubli.
Oui.
Et ça fait en sorte que ces gens-là, en tout cas, finissent leur vie de la mauvaise façon. Et on se doit d'accompagner nos aînés jusqu'à la fin, puis de les rendre tout aussi utiles, puisqu'ils le sont,
bien sûr, oui,
que de faire en sorte que l'environnement alentour d'eux reste sécuritaire.
D'ailleurs, dans votre message qui introduit votre plan d'action, vous terminez en disant que vous souhaitez que tous et toutes puissent vieillir dans la dignité.
Ah,
c'est un
oui.
peu votre message.
C'est notre volonté.
Donc, il y a beaucoup de groupes d'aînés qui ont fait des recommandations
oui.
en vue de la loi. Et là, je m'arrête deux instants pour les gens
oui.
qui nous écoutent. Il y a la loi d'abord qui a été adoptée à l'unanimité
oui.
en mai dernier, la loi 115. Et cette loi-là, d'ailleurs, elle s'adresse pas seulement aux personnes aînées, hein. Elle s'adresse aussi aux personnes qui seraient vulnérables et ça implique les personnes en situation de handicap, c'est bien ça?
C'est ça. En situation de vulnérabilité.
Voilà.
Parce que quand je suis handicapée, je peux être reconnue comme une personne vulnérable.
Mm-hmm.
Mais si j'ai un accident de hanche, si je tombe, si j'ai de façon très sporadique certains handicaps, mm-hmm. bien là, je suis en situation de vulnérabilité.
OK. Donc, c'est pour ces gens-là que la loi existe
dans la perspective de pouvoir aider tout le monde où qu'il soit. Parce que la
bien
loi,
sûr.
Contrairement à tous les autres, ben s'adresse d'une personne de sa résidence, de son mm-hmm. adresse à elle, où qu'elle soit. Donc, chez elle, dans mm-hmm. une maison autonome, dans un appartement, dans un condo ou même dans une résidence et dans un milieu hospitalier.
Très bien. Écoutez, vous avez fait ce que généralement je fais comme animateur. Vous avez aidé l'invité à bien dire la chose, à poursuivre, à mieux formuler
le mot.
Voilà,
on fait une belle équipe.
Voilà,
on fait
une équipe. Et justement, en parlant d'équipe, il y a beaucoup de gens qui se sont prononcés dans le cadre de la loi, mais aussi un peu après. Entre autres, aujourd'hui à l'émission, on reçoit la principale porte-parole de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées
oui.
et pré-retraitées, Mme Judith Gagnon.
Gagnon, oui.
Et elle soulève quand même peut-être quelques manques dans la loi qu'on peut peut-être retrouver dans le plan d'action. Je soumets seulement
oui.
une interrogation. Elle parle de maltraitance causée par la pratique actuelle. Vous parliez bon, des soins, de l'alimentation, des besoins des personnes. Ce que propose Mme Gagnon, c'est que la loi ne considère peut-être pas ce qui serait la maltraitance systémique. En
mm-hmm.
somme, le manque de médecins de famille, le manque d'heures de soutien à domicile, les difficultés liées à l'accès aux médicaments ou la grande pauvreté, etc. Donc, où est-ce qu'on on répond à ce problème-là dans votre plan d'action face à la maltraitance, disons, plus systémique?
Alors, dans le principe, on peut l'appeler systémique, on peut l'appeler organisationnel.
Mm-hmm.
Je pense que ce que le regroupement, la QDR, dit par le biais de sa représentante, Mme Gagnon, c'est à partir du moment où on peut reconnaître un ensemble de spécificités, on peut dire que c'est une maltraitance organisationnelle ou systémique. Par contre, nous, ce qu'on dit, c'est qu'à partir du moment où on est capable d'identifier toutes les formes de maltraitance, on peut s'avancer. Alors, dans le projet de loi, les gens nous ont dit « vous devriez faire la définition des maltraitances pour pouvoir y inclure la maltraitance organisationnelle ». Nous, ce qu'on dit, et c'est la recommandation des grands légistes, là, ceux qui écrivent les lois puis qui s'assurent que c'est une loi qui est écrite pour tout le monde, hein, parce qu'on est entouré de toutes sortes de gens pour nous aider à écrire les choses, c'est qu'ils disent « à partir du moment où je fais une définition, ben, je viens de mettre dans une canne quelque chose. Tandis que si je garde le mot maltraitance en disant toute forme de maltraitance, ben, je garde la possibilité d'y inclure toutes les formes de maltraitance.
OK. Donc, ça ratisserait assez large selon les juristes.
Et je vous dirais qu'à partir de là, il faut comprendre que c'est une question d'interprétation.
OK. Écoutez, on n'a pas eu l'occasion peut-être de parler davantage de cette politique à venir, mais j'aimerais rappeler aux gens qui nous écoutent qu'il est possible de se prononcer pour le déploiement de la politique sur le vieillissement. Renommée Ladon, Madame la ministre, la
Il y a Vivre et vieillir chez soi dans sa communauté au Québec, qu'on appelle affectueusement VVE. C'est celle qui est en consultation en ce moment.
Bien.
Et vous faites bien de le rappeler parce qu'on veut entendre les gens où qu'ils soient. La perspective de pouvoir vivre chez soi devrait être donnée à tout le monde. Et de ce fait, ben quelquefois, si j'habite à Rimouski, j'ai peut-être pas la même perspective que si j'habite à Montréal.
Évidemment.
Donc, vos auditeurs devraient prendre quelques minutes, si c'est possible, pour pouvoir nous écrire puis nous dire, voici ma perspective de qu'est-ce qui m'aiderait à vivre chez moi. Des fois, c'est le ménage, des fois, c'est la nourriture, mais des fois, c'est les soins. Alors, il faut être capable comme gouvernement de répondre présent dans cette perspective-là.
Et pour aider encore plus les gens qui nous écoutent, je les invite à soit écrire tout simplement « Bâtissons ensemble un Québec pour tous les âges » dans Google, ou on se rend évidemment au site de famille Québec, le mfa.gouv.qc.ca, sous l'onglet « Aîné ».
Bravo.
Bon, alors merci beaucoup, Madame la ministre.
Ça m'a fait grand plaisir.
Et je vous rappelle, en fait, je rappelle aux gens qui nous écoutent que Madame Francine Charbonneau est ministre responsable des aînés et de la lutte contre l'intimidation.
Vous saluerez Madame Gagnon pour moi, ça va lui faire plaisir.
Très bien, je ne manquerai pas.
Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Monsieur qui est victime de violences verbales de la part de son fils de 40 ans, avec qui il habite, insulte, dénigrement, menace. Ce dernier a des problèmes a plusieurs problèmes avec son fils et n'ose pas dénoncer. C'est un des cas, une des illustrations pas très heureuses qui a été mise en lumière dans un mémoire, notamment écrit par notre invité. Alors, je vous la présente tout de suite puisqu'on parle aujourd'hui de maltraitance. C'est que l'AQDR, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, et aux premières loges là, pour ces questions. Alors, on reçoit Mme Judith Gagnon, présidente. Bonjour, Mme Gagnon.
Bonjour, monsieur.
Bonjour. On vient d'illustrer un des cas que vous présentez dans votre mémoire que vous aviez déposé alors qu'il y avait un projet de loi, le projet de loi 115, qui est dédié contre la maltraitance. Est-ce que c'est une illustration juste? Est-ce qu'il y a beaucoup de ces cas-là qui existent encore aujourd'hui?
Bien, écoutez, monsieur, c'est certain qu'il y a beaucoup. Il y a plusieurs de ces cas-là. Écoutez, une personne qui vit de la maltraitance ou de l'abus, souvent, elle ne veut pas le dire.
Oui.
Elle est mal avec ça. Parce que vit, puis même, elle aussi, j'ajouterais, peut-être pas totalement consciente qu'on nomme ça abus et maltraitance. Alors, ça l'arrive souvent que ces gens-là ne veulent pas le déclarer.
Et ça, c'est un problème que vous avez relevé dans plusieurs de vos mémoires, la peur des représailles, la peur de dénoncer les gens qui nous aident.
La peur des représailles, la peur aussi de dire les choses, parce que c'est s'avancer, commencer à dire des choses. Puis aussi, la grande peur, je vais vous le dire, monsieur, c'est de se jeter dans le vide.
Oui.
Je vais vous l'expliquer. Si, mettons, c'est quelqu'un de la famille qui fait de l'abus et de la maltraitance comme une personne aînée. Mm-hmm. C'est sûr que s'il y a une dénonciation, il y a des impacts.
Oui.
Il y a des gros impacts.
Effectivement, cette
personne-là
risque de plus nous soutenir à ce moment-là.
Exactement. Mm.
Et même si on est mal soutenu, on est au moins soutenu, c'est ça?
Exact. C'est oui. quelque chose. Le fil est ténu mm-hmm. entre les humains. Et puis, c'est pour ça que c'est pas à couper au couteau. C'est pas juste une question de juridique. Mm. C'est une question d'approche sociale, d'intervention sociale, de mise en place de moyens pour aider les gens à mieux être ensemble. C'est vraiment complexe. Hein? Il y a beaucoup d'éléments là-dedans.
Mm. Effectivement, vous appréciez bien les liens humains qui sont nécessaires, qui doivent être... bien mené pour que les gens ne vivent pas la maltraitance ou l'isolement, mais il faut quand même rappeler, puis c'est vous qui le dites dans votre littérature, là, il y a environ entre 56 000 et 98 000 personnes qui vivent ça au Québec. Donc, est-ce que c'est un problème grave, la maltraitance au Québec?
Bien, c'est sûr que c'est un problème grave. Hmm. Mais savez-vous que c'est de plus en plus déclaré? Mm-hmm. Ce qui est intéressant, c'est que autrefois, probablement que le nombre de personnes qui vivaient de la maltraitance était quand même élevé, mm-hmm. mais ce n'était pas dit.
Ah oui, c'est ça. C'était pas nommé.
C'était pas nommé. Mm. Il y en a beaucoup. Vous vous souvenez, il y a quelques années, c'était tu. Il fallait tout le temps paraître bien.
Ouais.
Puis, il fallait pas rien déclarer. Alors oui, on trouve de plus en plus qu'il y en a beaucoup, mais il y en a peut-être pas plus qu'avant. Mais ce qui est bien, c'est que c'est déclaré, ce qui est bien, c'est que on peut arriver à s'en sortir.
Mmh.
Et ça, c'est quelque chose d'intéressant.
Bien, merci de travailler à ce que les choses se nomment. Au-delà du phénomène que vous connaissez bien, Mme Gagnon, il y a eu un projet de loi, la loi en fait 115, qui a fini par
Exactement.
Être adoptée à l'unanimité par les parlementaires à Québec. Donc, c'est bien de faire des lois, mais en juin, ensuite, le gouvernement a déposé un plan d'action. Ça veut dire qu'il y a de l'argent, des actions précises, la mise en œuvre de la loi au fond. Est-ce que vous aviez des critiques au moment de la loi? Le plan d'action est tombé. Est-ce qu'à ce moment-ci, les critiques que vous aviez faites à l'égard de la loi demeurent pour le plan d'action?
Bien, à l'égard de la loi, vous le savez, vous avez lu, comme vous dites, ma littérature. Mm. Nous, on était pour la dénonciation obligatoire.
Oui.
Vous le savez, on a maintenu ça. On avait été approchés par différents groupes. On a consulté beaucoup mm-hmm. des intervenants. Ce qu'on l'a dit haut et fort, ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement a permis la dénonciation obligatoire en CHSLD avec les gens inaptes.
Ouais.
C'est pas tout à fait complètement ce qu'on demandait,
mm-hmm.
mais il y a une part de réaliser.
Ouais. Mais il faut rappeler quand même qu'il y a 80 % des gens qui sont à domicile. Là. Donc,
oui.
c'est beaucoup de gens qui pourraient vivre de l'abus des personnes aînées et qui ne sont pas protégées par la dénonciation obligatoire.
Exactement. Mm-hmm. Ça, nous, on avait un malaise avec ça.
OK.
Un malaise avec ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas le dire.
Oui.
Tu sais, c'est pas... Dénoncer ça, c'est difficile. Nous, on était vraiment des tenants pour la dénonciation obligatoire.
Mm-hmm.
Mais écoutez, c'est pas là à l'heure actuelle. On a quelque chose qu'on a eu au niveau des CHSLD, des personnes inaptes.
Okay.
On s'attend à voir à ce que peut-être dans le futur, il y a quelque chose de plus qui suive ça.
Donc, vous continuez à travailler là-dessus.
Continue à travailler là-dessus.
OK, bien. En terminant votre analyse du plan d'action, évidemment, le gouvernement insiste beaucoup, lui, sur la maltraitance financière. La ministre en a parlé un peu plus tôt à l'émission. Mais est-ce que vous êtes satisfaite de ça comme priorité? Est-ce que vous trouvez que c'est en fait quelque chose qui n'était pas assez nommé ou pas assez visé quand on parle de maltraitance?
Bien, j'ai noté pour vous, pour l'émission, des
oui?
choses intéressantes et des choses qui manqueraient.
Bon,
Est-ce
bien.
Que vous me permettez de vous le dire?
Oui, oui.
Ce qui est intéressant, c'est le concept de bien-traitance.
Mm-hmm.
C'est important d'essayer de dire c'est quoi les conditions gagnantes, les déterminants pour qu'il n'y ait plus de maltraitance, qu'il y ait une société respectueuse et puis qui permette aux gens d'être bien, quel que soit leur âge, leur situation de santé. Et ça, le concept de bien-traitance, on a trouvé ça drôlement intéressant.
Bien, c'est positif, en tout cas. Les gens ont envie d'œuvrer à ça. Mais le contraire, peut-être, la bien-traitance, c'est qu'il y ait une maltraitance un peu plus large, organisationnelle, ou même, vous employez le terme, maltraitance systémique. On n'a pas beaucoup de temps encore ensemble, mais en quelques mots, qu'est-ce que vous entendez par là, maltraitance systémique?
Écoutez, quand il y a des services qui sont rendus trop tard.
Oui.
Quand tu as besoin de soins à domicile, tu n'en as pas. Quand on te l'enlève par manque de budget. Ou quand tu cours partout pour avoir un service puis tu ne l'as pas.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que ça veut dire? Tu en subis une forme de maltraitance.
Oui.
Parce que tu ne l'as pas, ton service.
Oui, puis c'est aggrave les relations.
Ou tu l'as eu, qu'on te l'enlève.
Ouais.
Ça l'aggrave ta situation.
Mm-hmm.
C'est systémique, ouais. C'est organisationnel, c'est pas de la même nature, mais ça t'impacte.
Oui, bien sûr.
Puis d'une certaine façon, je l'ai lu aussi dans la littérature, on peut parler de maltraitance systémique et organisationnelle.
Mm-hmm. Bien, d'ailleurs, ça a été nommé finalement dans le plan d'action. Il nous reste 15 secondes environ ensemble. Est-ce que vous croyez que le gouvernement veut attaquer aussi cette forme de maltraitance?
Nous le souhaitons, monsieur.
Bon, alors on continue de vous suivre pour que vous continuiez de le faire très bien, Madame Judith Gagnon. Donc, je rappelle que vous êtes présidente, porte-parole principale de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. On vous retrouve aussi sur Internet sur aqdr.org. Merci beaucoup, Madame Gagnon.
Merci à vous.
On a maintenant des nouvelles de la vieille capitale. Et qui de mieux que Michel Bédard, animateur de l'émission Les Capés sur CKIA, pour rendre ça possible? Bonjour, Michel.
Salut Benoît, ça va bien?
Ben, ça va très bien, content que tu sois avec nous. On parle d'abord de mobilité durable à Québec.
Ouais, ben, en fait, la Ville a travaillé ces dernières semaines à implanter un plan ou présenter un plan ou avoir... la vision de la population sur ce qu'est la mobilité durable.
Bon, oui.
Dans le domaine des personnes handicapées, on a fait également un travail à ce niveau-là. Et puis, on a présenté une définition et tout. On a travaillé à présenter les difficultés de mobilité durable qu'on avait. Pour ce qui est des personnes à mobilité réduite, je dirais principalement en fauteuil roulant parce que un trottoir qui est brisé en fauteuil roulant, on doit vraiment faire un détour.
Ah oui, bien sûr.
Pour pallier contre ça. Mm-hmm. Donc, c'est des choses qu'on a tenté de présenter et de dire à la ville.
Est-ce qu'on vous a écouté?
C'est difficile de savoir si un politicien écoute vraiment ce que la population.
Ah oui, oui, c'est vrai. On est. Ouais. Mais donc, vous avez quand même déposé, est-ce que vous avez déposé mémoire avec plusieurs groupes, j'imagine?
En fait, oui, il y a certains groupes, dont il y a le CAPVI qui a présenté un groupe, il y a le ROP03 qui ont présenté des choses également, mais ça allait tout dans le même sens, c'est-à-dire que, oui, la mobilité durable, on veut bien, mais donnez-nous les outils pour y arriver. Un transport adapté qui est plus peut-être malléable, qui est plus flexible, une meilleure vision pour ce qui est du transport en commun régulier, accessible. C'est toutes des choses sur lesquelles on doit travailler. Comme je disais tantôt, les trottoirs qui sont vraiment en piteux état dans la ville de Québec actuellement. Moi, je donne un exemple. Personnellement, si je pars de chez moi puis je vais à mon épicerie qui est à peine à 1 km, même pas, j'ai des risques de chute à peu près aux 200-300 mètres.
Mais il faut que les gens comprennent que c'est une partie intégrante de la mobilité. Il ne faut pas juste penser à quand on est dans un moyen de transport, mais tout ce qu'il y a autour, comme les trottoirs, c'est le début de la sécurité.
Oui, mais les gens sans handicap disent, par exemple, sur Internet, « Ah, mais pourquoi travailler sur les trottoirs alors que les routes sont en piteux état?
Mm-hmm. »
Oui, mais je veux bien travailler sur la route, mais si, en débarquant de mon véhicule, je dois quand même marcher sur le trottoir pour me rendre au commerce ABC.
Mm-hmm.
Donc, ça, c'est un concept qui est global. Il y a le véhicule et automobile, mm-hmm. il y a les taxis, il y a plein de personnes qui sont impliquées dans ce domaine-là. Donc,
ben écoutez, on vous soutient, Michel Bédard, absolument. Mais donc, ces consultations vont accoucher probablement de rapports. Quand est-ce que vous attendez des nouvelles de tout ça?
Je ne peux pas dire, malheureusement, quand est-ce qu'on attend le rapport. J'ai pas l'information sous les yeux, malheureusement. Mais j'imagine que l'élection s'en vient dans quelques semaines.
Mm-hmm.
Donc, ça n'ira pas à très court terme. J'imagine à plus ou moins long terme.
Profitez des élections pour faire valoir ça à vos futurs élus. Là.
On y travaille justement à l'émission Les Capés. On a comme but, en fait, j'ai comme but d'avoir les gens qui se présentent aux élections mm-hmm. à mon émission afin qu'ils parlent, entre autres, de mobilité durable, mais aussi de ce qu'ils envisagent faire pour les personnes à mobilité réduite.
Bon, on surveille ça avec grande attention. En 30 secondes, si c'est possible, c'est quoi les nouveaux changements là, dans le réseau de la RTC?
En fait, la RTC a présenté aussi, depuis le début du mois de septembre, un réseau qui est plus structurant. C'est-à-dire, pour donner une image, comme j'ai donné hier à mon émission, une espèce de toile d'araignée qui veulent mm-hmm. prendre les gens de l'extérieur, qui sont à l'extérieur de la périphérie, du centre-ville
mm-hmm.
et de les amener à un réseau plus efficace plus des centrales.
Parfait.
La difficulté que les gens en fauteuil roulant et à mobilité réduite auront dans ce truc-là,
mm-hmm.
c'est que ils disent que en fait ce qu'ils veulent faire, c'est demander aux gens de marcher plus pour se rendre à leur autobus.
OK. Donc, on préfère le transport actif ou être capable de se déplacer de manière autonome, c'est ça?
En fait, un peu plus.
Mais on n'a plus le temps. Il faut vous suivre quelque part, là. Il faudra vous entendre davantage sur CKIA. Je rappelle, Michel Bédard, que vous êtes animateur à l'émission Les Capés. À très bientôt pour des nouvelles de Québec.
Parfait. À très bientôt.
C'est Accès libre avec Benoît Lassette.
Le 5 novembre prochain se tiendront les élections municipales partout au Québec. La semaine prochaine, on va recevoir ici des représentants des deux principaux partis politiques de Montréal. Quand je dis ici, c'est à l'émission. Et il sera, disons, nécessaire de leur demander ce que les gens veulent en matière d'accessibilité universelle et aussi ce que les groupes communiquent comme revendication. Alors, on a de la suite dans les idées à l'émission et on s'est dit qu'avant ces élections et avant de rencontrer les deux représentants des principaux partis, il faudrait bien rencontrer, disons, quelque chose comme les trois principaux organismes de défense de droits à Montréal. En gros, on va dire ça, pour les personnes handicapées. Donc, d'abord, avec nous, on a Anne Pelletier, qui est directrice générale de Défi Montréal. Et seulement pour le rappeler, vous avez peut-être souvent entendu ROP, Regroupement des organismes de promotion du Montréal métropolitain, mais c'est l'ancien nom, puisque maintenant, il y a beaucoup de défis pour l'accessibilité universelle à Montréal. Alors, ça s'appelle Défi Montréal. Bonjour, Anne Pelletier, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Merci d'être avec nous.
Ça me fait plaisir.
Et avec nous aussi, Marie Turcotte, directrice générale d'Execo, qui est avec nous en studio. Bonjour Marie.
Bonjour Benoît.
Et bon, il y a une déroute un peu possible avec notre ami Laurent Morissette qui doit être des nôtres. Bon, vous savez, question de transport, tout ça, je sais qu'il voyage beaucoup, là. On va avoir de ces nouvelles probablement un peu plus tard dans l'émission. Alors, je m'adresserai d'abord à vous deux, mesdames. À tour de rôle, j'aimerais ça que vous m'indiquiez ce qui est urgent à Montréal pour votre organisation et, dans le fond, ce que la prochaine administration municipale devrait faire pour les personnes en situation de handicap. Je commencerai avec Anne Pelletier de Défi Montréal.
Bonjour Benoît. Alors écoute, oui. Pour nous, à Défi Montréal, mais comme tu l'as exprimé, nous sommes un regroupement d'organismes qui œuvrent auprès des personnes en situation de handicap. Mm-hmm. Et on a déjà un énorme enjeu qui est la disponibilité des locaux. Beaucoup de nos organismes manquent de locaux, n'ont plus de locaux disponibles et trouver des locaux abordables et accessibles, c'est un enjeu majeur et là, on va vraiment avoir besoin que la nouvelle administration se penche très sérieusement sur le dossier parce que de nombreux organismes pourraient être amenés à fermer dans les prochains mois.
Oui, parce que certains des organismes du secteur ont perdu leurs locaux récemment et dans un des cas, par exemple, ils ont dû couper un membre du personnel pour pouvoir se permettre les locaux. C'est sérieux.
Exactement. Oui. Exactement. Les coupures à cause des commissions scolaires, notamment, qui font face à une augmentation du nombre d'élèves, donc ils doivent reprendre les locaux vacants. Mm-hmm. Et à ce moment-là, donc, beaucoup d'organismes doivent trouver des nouvelles solutions. Donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur de nos membres comme organismes communautaires qui offrent des services à la population, donc ils doivent être capables de se relocaliser extrêmement rapidement. Mm-hmm. Après, dans les autres enjeux qui nous sont souvent soulevés donc, par nos membres, bien sûr, l'accessibilité du transport à Montréal, qui est quand même un problème criant, qui est très, très loin d'être réglé. Le logement, cet été, beaucoup de personnes ont eu énormément de mal à trouver des logements abordables et accessibles. Et des dossiers qui sont aussi plus souvent oubliés, sur lesquels on travaille beaucoup au niveau du regroupement, c'est l'emploi des personnes handicapées à la ville.
Oui.
Donc, très, très gros dossier.
Bien sûr.
Comment inciter la ville à employer des personnes handicapées et l'accessibilité, les nouvelles technologies, on va dire. Donc, entre le web et toutes les nouvelles technologies.
Mais ça, on va y revenir puisque vous êtes aussi un organisme qui travaillait fort là, pour une mise en accessibilité de l'information, des services, du web, de la ville. On y reviendra. Je passerai la parole à Marie Turcotte, directrice générale d'Execo. Même chose, qu'est-ce qui est urgent à Montréal? Qu'est-ce qu'on doit adresser à nos futurs administrateurs de la ville?
Moi, quand je vois les dernières années, à peu près 15 ans, la ville de Montréal a pris une position en faveur de l'accessibilité universelle. Et ce qu'on voit, la ville met en place des grands projets et malheureusement, elle n'a pas d'outils qui lui permettent de s'assurer que l'accessibilité figure, est intégrée dans les grands projets, puis va être présente dans toutes les étapes clés du développement du projet. Et à mon avis, ça, il y a une urgence d'agir à ce niveau-là.
Parce qu'au fond, les grands projets, ça couvre souvent des territoires un peu plus larges qu'une maison ou un édifice de la ville.
Effectivement. Puis la ville s'en va aussi. Il y en a de plus, tu sais, des projets où ils interpellent aussi plusieurs partenaires. Quand on intervient sur un territoire donné, mettons pour l'habitation, on ne peut pas juste mettre une tour d'habitation, il va y avoir des commerces de proximité. Elle va aussi interpeller le STM pour favoriser le transport collectif, etc. Et ça finit par être des projets structurants.
Ben oui, puis il y a beaucoup d'acteurs.
Effectivement.
Ouais.
Et là, c'est comment s'assurer dans ces projets structurants-là, l'accessibilité soit dans toutes les étapes. Puis ça, je pense que le jour où ça fera une pratique bien implantée, ça sera profitable pour l'ensemble des personnes en situation de handicap.
Et même celles qui en profitent, peut-être pas directement, comme les familles à poussettes ou toute personne qui présenterait temporairement des problèmes de mobilité.
Effectivement.
Bon, très bien. Alors, on entend bien vos priorités, disons, mais je retournerai vers Anne Pelletier, directrice générale de Défi Montréal. Votre organisation a été reconnue pendant longtemps comme l'Europe, là, je le rappelle, mais un des dossiers sur lequel vous œuvrez est l'accessibilité universelle de l'information et du web. Est-ce que ça pourrait constituer un dossier important pour la prochaine campagne, Anne Pelletier?
Alors oui, c'est un dossier très important. Dans la dernière année, la ville se concentre beaucoup dans son grand projet qui s'appelle la présence numérique, donc refaire sa présence numérique.
La ville intelligente.
La ville intelligente, exactement.
Oui.
Donc, il y a toute une partie de site web de la ville où là, la ville vraiment met en œuvre tout ce qu'elle peut pour rendre ce nouveau site le plus accessible possible. Mais il y a bien d'autres enjeux au niveau des interactions. Donc,
comment les personnes interagissent avec le web?
Comment les citoyens montréalais vont être capables de prendre ces virages, même si le site web est accessible? Comment ils vont gérer toutes ces interactions? Donc, il va falloir que la ville aille communiquer avec ses citoyens pour que les gens sachent ce qui s'en vient, ce qui va arriver, quels nouveaux moyens vont être mis à leur disposition, quels services vont être maintenant disponibles uniquement en ligne. Donc ça, cette communication d'aller vers le citoyen, d'éduquer le citoyen, va être vraiment un enjeu considérable pour la réussite de ce projet.
Parce qu'en fait, j'imagine qu'on veut beaucoup à la ville s'assurer que la seule et première porte d'entrée soit le web ou des applications, si c'est des applications, mais elles ne sont pas toujours accessibles, si je comprends bien.
Mais
Même si la ville fait
un effort pour les rendre techniquement accessibles, je vous dis, il va y avoir aussi un effort de communication qui va être à faire, vraiment pour éduquer les citoyens, aller à la rencontre du citoyen. Dans nos pays occidentaux, on a quand même à peu près 50% de la population qui est en faible littératie. Donc, il va falloir approcher ces gens-là pour qu'ils soient capables de faire ce virage, même si les outils ont été créés accessibles. Savoir les utiliser, être à l'aise avec ça et savoir quand les utiliser.
Donc, quand vous parlez de communication accessible, vous ne parlez pas seulement pour les personnes qui ont une basse vision, les personnes aveugles qui sont légion à nous écouter. Vous parlez aussi de toutes ces personnes qui présentent des difficultés à la lecture.
Toutes les personnes qui ont de la difficulté à la lecture, les personnes allophones dont la langue maternelle n'est pas le français, etc. Donc, ça couvre une énorme partie de la population.
Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que la ville doit faire à part sensibiliser les gens, là, comme vous le dites, là, leur annoncer que ça existe, ces services-là, mieux interagir avec eux?
Il va falloir les éduquer. Je pense que le milieu communautaire va devoir aussi être un intervenant essentiel pour aller à la rencontre de la population et puis éduquer les populations à être capables de prendre ce virage.
Est-ce que vous trouvez que les organismes ont les moyens de faire ça?
Ça va être un enjeu de la ville, justement, développer beaucoup plus ses partenariats avec le communautaire qui, lui, est en relation avec les populations vulnérables, avec les populations qui vont avoir besoin de cet encadrement-là.
Ben oui, bien sûr. OK. Si vous permettez, on va revenir à Marie Turcotte pour parler d'un exercice qui a été fait. Puis après, je vous poserai peut-être deux grandes questions d'enjeu. Vous réagirez à vous qui souhaitez là. Donc, je me retourne vers Marie Turcotte, qui est directrice générale d'Execo. Donc, avec d'autres groupes, vous avez œuvré concrètement à la mise en accessibilité universelle des bureaux de scrutin. À la formation du personnel d'élection aussi, parce que, faut le dire, là, c'est bien beau les promesses que les politiciens vont nous faire, mais il faut bien être capable de voter pour l'un ou l'autre pour commencer.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Marie Turcotte? Qu'est-ce que vous avez fait avec d'autres pour que les élections soient davantage accessibles?
OK. On a travaillé ça justement avec Anne de Défi.
Bon, voilà.
Défi Montréal et la table de concertation des aînés de Montréal. En fait, c'est intervenir, on travaille en collaboration avec le service du CREC pour s'assurer que pendant tout le processus, que ce soit pour aller t'inscrire, si ton nom ne figure pas sur la liste, aussi pendant le vote, quand tu vas voter, que tout soit mis en place pour pas que tu rencontres d'obstacles, mais au contraire des facilitateurs.
Ah oui.
Comme par exemple, le jour du scrutin, dans la salle, pour ceux qui veulent, ils ont de la misère à tenir le petit crayon, il y a des crayons plus gros. Il y a une pince, une tablette pince, pour les gens qui ont de la misère à tenir leur bulletin. Et ça, ils vont avoir ça dans tous les bureaux de scrutin.
Ah, c'est important de le rappeler.
C'est ça. Et aussi les gabarits que les gens qui ont une déficience visuelle vont pouvoir utiliser, mais même celles qui ont de la misère à mettre,
qui sont moins agiles des mains, par exemple.
C'est ça, c'est ça. Quand on parle de mettre un trait sur deux cercles,
elles
peuvent utiliser aussi le gabarit. Fait que ça, c'est une chose. Il y a 2 semaines, on a donné un atelier de sensibilisation de 3 heures pour tous les coordonnateurs et leurs adjoints. C'était 50 personnes. Et il y avait une personne par type de déficience.
Ah oui.
Il y avait déficience visuelle, auditive, intellectuelle, langage, parole, motrice, et qui donnait des trucs et conseils sur comment accueillir les électeurs en situation de handicap. Il y avait aussi un représentant aîné, une personne aînée qui a fait un témoignage. Et on leur a aussi remis un outil en aide-mémoire qui pourra être remis aux 13 000 employés, parce que c'est 13 000 employés qui travaillent le jour du scrutin.
Ça fait du monde à éduquer ou sensibiliser, si je peux dire.
C'est ça.
Bon,
c'est ça.
Anne, c'est un bel exemple de partenariat, ça, avec la ville. Est-ce que, avec tout ça, est-ce que... Je suis désolé, je vais devoir poser la question. Est-ce qu'on va arriver à du 100% d'accès au bureau de scrutin?
OK, pour l'accessibilité architecturale, c'est Société Logique
okay.
qui a travaillé avec eux pour dire qu'il y a 4 ans, ils avaient développé une formation, une grille d'évaluation pour ceux qui choisissent, qui louent les locaux.
Ah, parce que c'est ça souvent le problème, hein? c'est que les locaux avec lesquels on fonctionnait, c'était des écoles,
c'était
comme ça.
C'était la liste du DGEQ, Directeur général des élections du Québec. Et là, maintenant, eux, ils ont leur propre liste.
Okay.
Cette année encore, Société Logique a donné à nouveau une formation et il a aussi apporté des précisions, bonifié la liste à la suite d'expérience des élections d'il y a 4 ans.
Okay.
Elle a été bonifiée.
Bon, très bien. Écoutez, Marie Turcotte, avec Ex-Éco, il y avait eu, aux dernières élections en 2013, 41 revendications qui recoupait beaucoup de thèmes. Certains ont été soulevés par Anne. Cette année, vous semblez, en vue des élections, mettre une petite attention spéciale sur le logement, si je comprends bien.
Oui.
En fait, de quoi s'agit-il?
Ben, en fait, c'est le logement, parce que quand on parle d'inclusion, hein, ça commence par pouvoir vivre dans la communauté. Mm-hmm. À Montréal, il se fait beaucoup de logement social, de logement abordable. Ces projets-là d'habitation contiennent des appartements, des unités d'habitation accessibles, universellement accessibles. Et là, le problème, c'est qu'il y a des locataires qui, en situation de handicap, qui veulent déménager, qui sont à la recherche de logements accessibles, adaptables ou universellement accessibles. Et tu as aussi le propriétaire d'immeubles qui est à la recherche de personnes en situation de handicap pour occuper ces logements accessibles ou adaptables.
Donc, ces gens-là ne se rencontrent pas, puis ça fait qu'il n'y a pas de logement.
Effectivement. Et ça va même qu'il y a des propriétaires qui ont des logements adaptables, à force d'attendre, finis par louer par monsieur et madame tout le monde.
Okay.
Ça fait qu'il y a des ressources qui sont investies, mais ne sont pas utilisés nécessairement par les bonnes personnes.
Okay.
Et ça a pour impact que les personnes en situation de handicap, certaines demeurent dans des logements inadéquats, qui peuvent compromettre leur sécurité, puis ou bien donc on se retrouve en CHSLD à défaut. Et là, nous, on aimerait que la Ville, justement, soutienne, en tout cas, développe un outil qui est un outil pour permettre cet arrimage-là entre le locataire et le locataire.
Voilà, pour qu'il y ait du logement accessible le moins cher possible, parce que bon, souvent, le premier handicap, c'est la pauvreté, qu'on le veuille ou non, là, et que ça soit simple pour tout le monde. C'est quand même relativement économique comme proposition. Avant de nous quitter, Anne Pelletier, de Défi Montréal, vous parliez d'emploi, qui est en fait comme enjeu important. Est-ce que vous avez, comme regroupement, une revendication phare sur l'emploi en vue des prochaines élections?
Alors, nous, au niveau de la ville, on essaye d'éduquer, qu'il y ait de la sensibilisation au niveau du service des ressources humaines et du personnel qui travaille à la ville pour enlever ces préjugés à l'égard des personnes handicapées en emploi.
Ah oui.
Parce que le taux d'emploi des personnes handicapées à la ville est extrêmement faible et c'est énormément par un problème de mentalité, moyens mis en œuvre dans les processus de recrutement, cibler les personnes, mais beaucoup avec des préjugés dans les services, les personnes vous annoncent que si cette personne-là a un handicap, elle ne pourra pas travailler dans notre service.
Mais j'entends bien les préjugés, mais je suis surpris, Anne Pelletier, puisque la ville n'était pas soumise au programme d'accès à l'égalité en emploi, elle ne devait pas répondre à certains quotas.
Effectivement, la ville le doit, Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'ils ont même du mal à recevoir des candidatures de personnes en situation de handicap. À l'heure actuelle, ils ne reçoivent quasiment pas de candidatures. Les postulants sont tellement certains qu'ils ne seront pas pris qu'ils n'osent même plus postuler.
Donc, il faut des deux côtés faire de la sensibilisation, j'oserais dire.
Exactement. Okay. Exactement. Donc, travailler aussi. Et là, on rejoint toujours cette communication au niveau du public dont je parlais tout à l'heure, que la ville communique plus fortement que le message à dire « on a une politique d'égalité en emploi » parce que les gens n'y croient pas. Donc, c'est vraiment travailler aussi ces communications à dire « envoyez-nous vos candidatures, nous embauchons des personnes handicapées ». Mais c'est un vrai message. Et de l'autre côté, s'assurer que dans les services aussi, ça suive pour être capable de faire une inclusion tout à fait harmonieuse des personnes en situation de handicap dans les milieux d'emploi.
Très bien, écoutez, on a bien entendu vos revendications. Il y en a d'autres aussi. D'ailleurs, si on veut avoir plus d'informations sur l'action de Défi Montréal, on se rend, rappelez-moi l'adresse, Anne Pelletier.
Défi, donc D-E-P-H-Y, comme défi science physique, donc DEPHY-MTL.org.
Très bien. Et on va l'ajouter aussi sur notre page. On vous suit et on relaie aussi vos propositions aux élus, aux représentants la semaine prochaine. Marie Turcotte, merci beaucoup, directrice générale d'Execo.
Bienvenue, ça fait plaisir.
Et on retrouve plus d'informations sur execo.net ou sur Facebook. On repère Execo aussi. Merci beaucoup, mesdames. On s'en va vers les élections. 16 novembre. Oh non, pas 16! Non, je suis en train de dire les gens en erreur. 5 novembre, on vote.
Je cale un dernier verre et puis je pars pour la gare. Après je m'accroche à l'aube ou au lampadaire. Regarde l'étoile filante, non c'est un satellite. Mes vœux valent plus rien, faut partir du site. Mais pas besoin d'aller bien loin pour être déçu. Regarde le diamant, on est là au coin de la rue. C'est pas de l'an, c'est de la cop, c'est pas de la mousse. C'est une escorte, cheap stock, flat buck, too bad, tough luck. Je cours de bord en bord, les années me passent sur le corps comme les pintes de bière et puis les shots de fort. Yeah. Ça a l'air que c'est pas à soi qu'on va changer le monde. Et tant qu'à être là, colle un autre homme. Ni la terre ni la mer ne fait vivre son âme et tous ses refrains à tout le monde, à personne. J'ai des relents de rage de mon secondaire. Quand j'arrive au Constock, je suis encore le d'une langue, d'un pays, d'un taudis, d'un motel, deux étoiles dans le Maine, aux États-Unis. Je cours de bord en bord, les années me passent sur le corps comme les peines de bière et puis les shots de fort. Je cours de bord en bord, de bord en bord, va bien finir par arriver quelque part. Accroche à l'aube ou au lampadaire. Regarde l'étoile filante. Non, c'est un satellite. Mes vœux valent plus rien. Faut partir du site. Je cours de bord en bord. Les années passent sur le corps comme les peines de bière et puis les shots de fort. Je cours de bord en bord. Les années passent sur le corps comme les peines de bière et puis les shots de fort. Je cours de bord.
Alors, on s'apprête à vivre notre première chronique de trois sur les ressources destinées aux étudiants et étudiantes du postsecondaire en situation de handicap. Et avec qui on fait ça? L'organisme de référence, l'Association québécoise pour l'équité et l'inclusion au postsecondaire, ACEPS. Donc avec nous, la chargée de communication de l'organisme, Marie-Hélène Tanguay. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Benoît. Bonjour chers auditeurs. Oui, auditeurs et auditrices.
Ben oui, on peut nommer les femmes, c'est une bonne idée, c'est plus que la moitié de l'humanité. Première chronique donc sur les services qui sont dédiés aux personnes en situation de handicap qui sont pas secondaires. Mais bon, même si vous venez souvent à la station,
oui.
J'aimerais ça que vous nous rappeliez, qu'est-ce que vous faites, la CAPS?
plusieurs choses, Benoît. Entre autres, on promouvoit l'égalité des chances en éducation. On fait de la défense des droits collectifs. Mm-hmm. C'est bien important de le mentionner. Mm-hmm. On a aussi une table de concertation en employabilité où tous les gens qui sont du milieu du travail et de l'éducation se regroupent ensemble pour trouver des solutions pour l'après-diplomation.
C'est important, ça.
Oui.
Parce que la diplomation a augmenté, mais au niveau du travail, ça prend du travail avant que ça bouge.
Effectivement.
Oui. Oui. Bon.
Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de travail encore à faire à ce niveau-là. Et puis, nous avons notre, je pourrais dire, légendaire programme de bourse qui se poursuit d'année en année depuis 91 déjà.
Wow, mais on en reparlera un peu plus tard au cours de la saison, parce qu'il est possible pour vous qui nous écoutez d'accéder à des bourses, enfin, la possibilité d'y accéder, là, c'est pas tout le monde qui en a, mais vous êtes généreux, et aussi, vous pouvez renseigner sur le financement aux études.
Tout à fait, bon. Et puis aussi, au niveau des mesures d'accommodement, c'est moi qui, dans le fond, s'occupe des relations avec les étudiants quand ils ont des problématiques d'accommodement. Je fais de la référence et je donne des conseils depuis maintenant 2 ans.
Ouais. Marie-Hélène, merci beaucoup de faire tout ça. Donc, maintenant qu'on vous connaît mieux ou qu'on vous reconnaît à KEPS, à qui s'adressent les services dans les universités, dans les cégeps?
En fait, ça s'adresse à toute personne en situation de handicap.
Mm-hmm.
Sauf que c'est important de savoir qu'il faut un diagnostic maintenant.
Ah, c'est la base.
Oui, c'est la base, effectivement.
Donc, c'est qui nous donne ce diagnostic-là, en gros?
Ça peut être un neuropsychologue, ça peut être un docteur, selon la situation de handicap. Comme par exemple, souvent, ça va être un docteur qui va te donner, ou un physiatre, par exemple, qui va te donner ton diagnostic au niveau moteur, ou un neurologue, mais ça sera au niveau... comme par
des troubles d'apprentissage,
oui, troubles d'apprentissage, troubles de langage, bien là, ça va être un orthophoniste.
Okay.
Et puis là, après ça, troubles neurologiques, bien ça va être justement, ça peut être un neurologue et un psychologue aussi qui va détecter s'il y a, et un psychiatre, s'il y a problématique de santé mentale.
On comprend à qui ça s'adresse. Maintenant, c'est quoi les services d'aide sur lesquels les étudiants en situation de handicap peuvent compter quand ils vont à l'université ou au cégep?
Oui, c'est une bonne question parce qu'il y en a plusieurs.
Ah, hein? bon.
Oui. Donc, ça va vraiment selon la déficience, sauf qu'il y en a 4 de base, je dirais.
C'est bon.
Preneur de notes, qui est universel dans la plupart des cas. Il y a aussi l'accompagnement, surtout en fait, quand tu as une déficience moteur, ça, c'est plus spécifique à eux, je dirais. Et il y a aussi, on oublie souvent, mais il est possible d'obtenir WordQ et Antidote quand tu as des problématiques
d'orthographe.
Oui, au niveau des troubles d'apprentissage, dyslexie, dysorthographie.
Mm-hmm.
Et même quand tu as un
TDDH.
Merci,
on le connaît bien celui-là, Marie-Hélène.
Oui, on le connaît bien. Donc, voilà. Et puis...
ces services-là, puis aussi les services qui sont vraiment adaptés, spécifiques pour nos besoins en particulier.
Effectivement, comme la déficience visuelle, eux ont accès à Zoom Text, à Jazz, mais ce que j'ai appris, c'est que c'est l'Institut Nazareth et Louis Braille qui sont mandataires pour offrir ce type de logiciel spécialisé. Toutefois...
Ouais.
À l'université, tu peux avoir accès à des télévisionneuses, des preneurs de notes, parce qu'on s'en doute que pour les personnes qui ont une déficience visuelle, ça peut... ils ne peuvent pas écrire. Donc,
bien sûr,
donc quand on dit justement que les trois, accompagnement et puis preneurs de notes et du temps supplémentaire à la passation d'examen, ça, c'est plus universel.
Okay.
Mais quand on parle d'utilisation de logiciels d'aide, ça, c'est plus spécifique.
Donc, c'est vraiment... C'est adapté dans certains cas. Puis, c'est heureux de le rappeler. En passant, il y a aussi beaucoup de personnes aveugles aux études qui utilisent en classe un laptop.
Oui.
Bon, c'est quand même onéreux. Je m'excuse de vous poser la question piège, mais si une personne ne dispose pas d'un ordinateur portable, est-ce qu'il y a moyen d'accéder à quelque chose d'équivalent?
Non, pas encore. Parce que... en fait, c'est les établissements qui ont maintenant l'enveloppe budgétaire. Auparavant, on appelait ça le programme d'allocation pour besoins particuliers, ouais, que vous connaissez sûrement. Ouais. Mais maintenant, il y a eu un remaniement depuis le mois de juillet 2016. Il n'est plus possible d'avoir une enveloppe budgétaire pour bénéficier d'un ordinateur.
C'est pour ça que vous faites la défense collective, oui, des droits. Donc, c'est une de vos revendications, certainement. Écoutez, la première chronique de nos trois est déjà terminée. Si les gens veulent avoir plus d'informations, votre site web est en ce moment en construction.
Oui, mais vous pouvez toujours aller voir le www.acapsguide.org.
Bon, très bien.
Et communiquez avec nous au 514-499-9451.
On ajoute ça aussi sur la page de l'émission. Oui. D'ailleurs, on le fait avec tous les gens qui sont venus ici vous présenter leur combat, mais aussi leur programme, etc. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez, si vous êtes le câble, passer sur le web. Vous vous rendez sur canalem.vusezvoix.com. Sinon, si vous avez le câble, vous pouvez en plus nous entendre après tous les canaux de musique. L'émission aurait été impossible sans Christiane Campagna en communication, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et aussi Sylvie Rivard qui nous a beaucoup aidés comme recherchiste. Je tiens à la remercier particulièrement. Je vais t'émue. Coudon. Et donc, vous le savez, Benoît Racette est ici pour cette saison avec vous. On se reparle la semaine prochaine et profitons des prochaines élections pour demander finalement une ville avec un véritable accès libre.